Good morning, guten Tag, bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Il sonne 11h et nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour nous et également pour vous. Et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les chers et fidèles auditrices et auditeurs du Club La Presse sur Canal FM à Lomé ici ou Radio Lumière à Anéro. Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan pour couvrir tout le Togo. Et nous débordons du Togo pour aller en Afrique, en Europe et un peu partout dans le monde grâce aux confrères numériques Radio Le Bénin et Bénin Radio, sans oublier les applications Canal FM. Et si nos voix parviennent jusqu'à vous, c'est grâce aux techniciens, le duo du jour, Vitogbe Koku Michel Tumega. Et nous enregistrons le retour de Kodjo Jérôde Akucha, que nous saluons et à qui nous souhaitons vraiment plein d'énergie. Bon rétablissement. À l'émission de ce jour, nous allons revenir sur la période préélectorale, notamment la fin du recensement électoral. Et puis les sorties des uns des autres, notamment des partis comme la DMP, qui a rencontré la presse la semaine dernière pour porter un certain nombre de messages, dont notamment un appel de fonds pour financer les élections à venir. La sortie également de la conférence des évêques du Togo, dont le communiqué court, vous avez certainement connaissance, nous allons en parler. Et puis, nous allons également aborder la coopération internationale avec la chef du gouvernement qui a représenté le Togo au sommet sur le travail la semaine dernière à Genève. Entre-temps, c'est le ministre du Commerce qui a fait un déplacement au Canada, sans oublier également cette candidature d'un Togolais à l'Organisation mondiale des douanes. Et puis nous allons parler également de développement avec ce projet qui va transporter l'énergie électrique dans le nord du Togo, avec l'espoir que les toiles d'araignée seront définitivement reléguées dans les oubliettes du passé. Et comme c'est une tradition, nous démarrons l'émission du jour avec une pensée. Et aujourd'hui, je me perds un peu dans mes papiers. Oui, je me retrouve. C'est Nelson Jean Robert Ball qui a écrit que l'honnêteté se fait rare, la ruse a pris la place, car la bonté n'est plus à la mode. Encore une fois, l'honnêteté qui se fait rare, la ruse qui prend la place de l'honnêteté, car la bonté n'est plus à la mode. C'est une pensée vraie, mais j'espère que vous, qui nous écoutez, et nous, dans ce studio, nous serons un démenti à cette pensée pour dire que nous continuerons toujours à cultiver l'honnêteté et la bonté, et que nous allons autant que possible tourner le dos à la ruse. Et c'est pas un pasteur qui va nous démentir. Docteur Pasteur Daniel Ecloux, bonjour. Vous êtes pasteur d'une congrégation religieuse, mais vous êtes également docteur en sciences politiques. C'est surtout à ce titre que nous avons souhaité vous avoir pour nous enrichir de votre expertise, notamment sur les questions dont nous allons parler. Mais un petit mot, enfin une petite réaction sur cette pensée du jour. Quand Nelson Jean-Robert Ball écrit que l'honnêteté se fait rare, la ruse prend la place, car la bonté n'est plus à la mode. Pasteur ?
Oui, aujourd'hui nous pouvons le dire, les gens ne sont plus honnêtes. Mais comme vous l'avez déjà dit, on peut toujours cultiver l'honnêteté. Mm-hmm. Et ça commence par soi-même. Personne ne va pas te dire, c'est comme ça, il faut faire ça comme ça. Il faut que tu saches que quand tu es honnête, c'est quelque chose que tu attends de laisser comme un héritage. Partout où tu passeras, là, on dit non, celui-ci, il est honnête. Et les gens auront confiance en toi. Et tu seras toujours recherché. Et après, même toi, tes enfants, c'est un héritage que tu leur laisses. Les gens vont toujours dire, celui-ci, il était honnête, il a toujours laissé, peut-être il a laissé les choses dans ses enfants comme lui-même.
Merci, je crois entendre là le pasteur. Maintenant, le docteur en sciences politiques, hein, que vous êtes, un petit mot sur vos recherches en sciences politiques.
Oui, en réalité, beaucoup de gens en politique ne sont pas honnêtes. Par exemple, si nous prenons certains gens, si je dis beaucoup de gens, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Par exemple, quand vous allez vers certaines populations qui vont vous dire, on nous a dit telle chose, mais que nous n'avons pas vu. Je me rappelle que j'ai été à quelque part au Togo et la population m'a dit, si c'est la politique, ne nous parlez pas de ça. Nous ne voulons plus attendre parler de la politique. Mais les gens nous ont promis telle chose. Même après, quand on a voté pour eux, ils ne sont même pas venus nous dire un simple merci. C'est la malhonnêteté. Il faut être honnête avec les gens. Et c'est ça qui va faire que même si après ton départ, là où ils ont voté pour toi, tu es sur cette chaise-là aujourd'hui. Demain, tu peux tenir la main de quelqu'un, tu l'amènes là-bas. Les gens vont croire à toi parce que tu as été honnête. Et à cause de ton honnêteté là, les gens vont toujours croire à ce que tu vas amener.
Merci. Notre invité, Daniel Eklou, il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Il est également à 16 heures pasteur d'une église. Mais je rappelle que la personne que nous avons invitée, c'est le docteur en sciences politiques, pour qu'il nous enrichisse de ses recherches. Confrère Didier Komiasogba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Bonjour au pasteur.
Oui, et bien armé pour entamer la nouvelle semaine.
De toute façon, on n'a pas le choix, nous sommes comme des soldats.
N'est-ce pas? Prêt au combat à tout moment.
Prêt au combat à tout moment.
Et notre combat, c'est apporter l'information, autant que possible, l'information vraie.
Information honnête, une information de bonté, et pas une information rusée aux gens.
Merci. Donc, nous attendons un deuxième confrère qui s'est retrouvé un peu coincé dans l'embouteillage, mais il va nous rejoindre incessamment. Donc, en attendant les élections, nous ne cesserons jamais de le dire assez. La semaine dernière, c'est le mercredi 14 juin, que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a clôturé la phase de l'enrôlement des électeurs dans la zone 3. Mais le débat continue à s'animer. Et puis, des sorties ici et là, dont notamment... Togo Matin, le journal Togo Matin, paru aujourd'hui, revient sur la fin du recensement électoral et également la dernière sortie en date de la conférence des évêques du Togo, quand Togo Matin écrit que les évêques du Togo appellent à l'instauration d'un climat apaisé dans cette période électorale. Et Didier, Togo Breaking News, qui est ton organe, toi aussi tu t'intéresses à la dernière sortie des évêques, quand Togo Brikunus écrit que appel des évêques pour le respect des libertés et la libération des détenus politiques, également avec la DMP, la dynamique de la majorité populaire, qui a également rencontré la presse. La DMP qui fait un appel de fond pour les élections à venir. Le temps que tu prennes la parole, accueillons le Harry Miaou Tchanyaou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Harry Miaou.
Sass, bonjour. Bonjour aux Togolaises et aux Togolais qui nous écoutent en ce moment. Bonne semaine de travail à tous.
Merci. On sent que tu as couru, surtout quand tu as gravi l'escalier. Je te laisse le temps de reprendre ton souffle. Eh bien Didier Asogba, voilà le contexte préélectoral avec la fin du recensement. La sortie dernièrement de la conférence des évêques avec les messages dont ils sont porteurs. Également la DMP qui a également rencontré la presse. La DMP a aussi réagi sur la fin du recensement avec aussi cet appel de ce parti ou bien de cet ensemble de fonctions politiques à l'endroit de l'opinion pour mobilisation de ressources financières.
Oui, oui, tu permets, on commence par la fin du recensement électoral. Donc, qui naturellement, on a constaté, la fin dans la zone 3, notamment le mercredi dernier, des opérations. Et globalement, enfin, globalement dans la zone 2 et un peu partout dans la zone 3, ça a été une opération assez apaisée. Il y avait d'autres organisations politiques continuent de relever des dysfonctionnements, notamment, on n'en a pas entendu tellement parler dans la zone 2, mais ce sera également dans la zone 3 qu'on entend parler également des dysfonctionnements avec des machines, la lenteur dans les machines, le manque des consommables, hein, d'un certain nombre d'intrants pour l'impression ou pour confectionner la carte d'électeur aux populations. Et il y a également ce débat-là dont on avait fait cas la dernière fois ici, l'enrôlement des mineurs qui est soulevé ici et là, notamment par la plupart des formations politiques de l'opposition. Donc, quelqu'un dira qu'ils n'ont qu'à apporter la preuve, mais ça reste un débat entre acteurs politiques et ça reste également un sujet aujourd'hui dans l'opinion qui est un sujet clivant aussi. Et donc, pendant ce temps, il y a la question en suspens de la zone 1, dont tout le monde avait été unanime de dire que les opérations se sont déroulées, certes, mais pas dans les meilleures conditions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour cette zone-là? Ça reste une question en suspens et la DMP l'a relevé, d'autres personnes l'ont également relevé, d'autres organisations l'ont également relevé, la nécessité pour la CENI, par exemple, de faire peut-être une séance de rattrapage dans la zone 1. Après, on n'est pas dans les agendas de la CENI et des autorités, donc on verra ce qui va se passer dans la suite. Pendant que les indiscrétions annoncent la consolidation des données pour l'impression des listes provisoires, bon, si on passe à cette étape déjà, ça veut dire que il y a beaucoup de réclamations et beaucoup d'appels lancés qui ne seront pas entendus. Mais je suis pas, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mm-hmm. Et ça reste une affaire à régler entre acteurs politiques, d'où l'essence ou l'importance de cet appel-là lancé par les évêques du Togo qui ont appelé à l'instauration d'un climat apaisé, un climat apaisé avant les élections. Ça veut dire que si nous voulons que les élections soient acceptées de tous à la fin, tous ces débats-là qui se posent déjà en amont soient des débats qui sont résolus avant la tenue des scrutins pour qu'à l'issue, il n'y ait pas justement de contestation de résultats et d'autres choses à relever. Les évêques ont également relevé la nécessité aujourd'hui de garantir les libertés de tous ordres, ont-ils dit. Les libertés de tous ordres, ça veut dire beaucoup de choses. Certains aujourd'hui n'ont pas la liberté, et c'est un constat général aussi, de tenir un certain nombre d'activités, que ce soit à Lomé, que ce soit dans d'autres localités du pays. Ça reste un débat depuis Covid ou depuis la fin de Covid, si vous voulez. Ce débat-là reste aujourd'hui la liberté pour les acteurs politiques et d'autres de se réunir, de mener leurs activités, qui est impossible ailleurs, mais possible pour certains. Comment est-ce que ça a pu arriver, hein, dans le landerneau politique, cette façon que qu'on pourrait mentionner de deux poids ou deux mesures? Mais c'est selon les évêques qui ont lancé également leur appel. Et cet appel-là également, toujours lancé depuis concernant la libération des personnes qui sont détenues pour avoir participé ou pour avoir mené des activités politiques, donc qu'on appelle généralement au niveau de l'opposition les prisonniers politiques. Les évêques ont également utilisé les termes de prisonniers politiques. Je ne sais pas si au niveau des autorités on conçoit la chose comme ça, mais est-il que les évêques ont également demandé qu'on libère des personnes qui ont été emprisonnées dans le cadre des activités politiques ou pour leurs opinions politiques, leurs expressions politiques? Ça reste aujourd'hui un sujet également. Des gens disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo, mais on sait tous qu'il y a des acteurs politiques qui ont participé à des activités politiques et qui ont été arrêtés dans ces cadres-là et emprisonnés. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre, le terme qu'on utilise, c'est prisonnier politique. Mais bon, ça reste un appel maintenant lancé par les prélats. On verra si les autorités, cet appel a été directement adressé aux autorités du pays. On verra si cet appel sera entendu par le président
Merci
de la République
pour ce tour complet de la période électorale. À propos des détenus ou des prisonniers politiques, il faut également rappeler cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO il y a quelque temps, laquelle cour communautaire avait ordonné la libération de 10 détenus qui avaient été arrêtés en 2019 et qui ont été accusés d'insurrection armée. La Cour de justice de la CEDEAO demande leur libération et la CEDEAO demande également que l'État togolais instruise les allégations de torture dont ces personnes se sont plaintes entre-temps.
Si tu te permets, ouais. Par rapport à l'apaisement du climat souhaité par les évêques, par exemple, tu as fait mention de la Cour de justice de la CEDEAO et ces derniers mois, ça fait un total de 3 ou 4 décisions de cette Cour-là qui vont dans ce même sens-là. Et si on arrive à exécuter ces 3 ou 4 décisions, je pense qu'on aura résolu une bonne partie des problèmes. Tu as parlé de cette affaire-là de Taïga Révolution. Il y a une décision concernant Jean-Paul Omoulou. Il y a d'autres décisions, une autre décision déjà concernant l'ancien candidat à l'élection de 2020 à Guillaume Kodjo et d'autres. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui viennent d'un peu partout. Et quand on met les uns dans les autres ou on met les petits plats dans les grands, je pense que ça pourrait contribuer justement à l'apaisement de ce climat-là.
Oui, je sais que c'est tout le monde qui souhaite vraiment que le climat social, sociopolitique soit le plus apaisé possible pour la vie au jour le jour, pour la relance de notre économie, surtout en cette période électorale, que tout se passe bien selon le respect des libertés, des droits des uns également, des devoirs inhérents à chacun d'entre nous. Harry Miaou, donc cette période électorale, que nous rappelons avec la fin du recensement dans la zone 1 et en théorie dans tout le Togo, mais ces demandes qui se veulent persistantes que la CENI organise un rattrapage pour la zone 1 où nous avions eu à déplorer quelques difficultés des dysfonctionnements et puis ces appels des uns des autres pour un climat social vraiment apaisé avant que nous entrions dans le vif du sujet.
Oui, mais je crois que le Togo reste un pays uni, indivisible, et tous les Togolais que nous sommes, nous avons besoin de cette quiétude pour pouvoir vaquer à nos occupations quotidiennes. Et c'est de bonne guerre que les uns et les autres émettent les idées qui sont les siennes pour faire marcher la République en bon. Et par rapport à la zone 1, où beaucoup de gens avaient décrié qu'il y avait beaucoup de nos compatriotes qui n'avaient pas pu se faire enrôler, qu'il faille revoir s'il faut en ajouter quelques jours ou pas. Je crois que le Togo, je disais tantôt, est indivisible et à Lomé, comme toutes les préfectures concernées par la zone 1, c'est des Togolais qui y sont et qu'ils ont besoin également d'avoir cette carte qui est primordiale et déterminante dans l'accomplissement de tout ce qui engage la citoyenneté des uns et des autres. Donc, c'est des vœux émis par les uns et les autres et des gens avisés. Et je crois que la CENI n'est pas sourde. Elle entend, elle enregistre tout ce qui se dit par rapport à cette demande de proroger, de voir s'il faut ajouter quelques jours pour la zone 1. Si la CENI constate, comme moi, parce que moi-même je sais, il y a des gens qui n'ont pas pu se faire enrôler. Nous l'avons tout le temps dit avant que l'étape de la zone 2 ne démarre jusqu'à ce qu'on aille à la clôture au niveau de la zone 3. Si la CENI entend et constate également qu'il y a des citoyens qui n'ont pas pu se faire enrôler par manque de temps, par dû aux difficultés que les machines ont connues, elle peut, dans le cadre de cet apaisement que nous crions tous ici, elle peut encore voir comment le faire. Mais je sais que ça doit avoir des coûts, forcément. Et donc, si c'est la question de coûts, peut-être que la CENI devrait se prononcer. Parce qu'on ne peut pas être une institution de cette envergure où les gens crient qu'il faut qu'on aille à un aménagement pour que tous les citoyens puissent avoir leur carte qui leur permettra d'accomplir leurs devoirs citoyens et qu'on fasse la sourde oreille. Je me dis que la CENI dira quelque chose à ce sujet. Maintenant, revenons aux questions de la zone 2 et de la zone 3, surtout de la zone 3, où on a évoqué dans les rangs de l'opposition plusieurs inquiétudes liées à l'enrôlement des mineurs, liées à l'enrôlement des étrangers. J'avais tout le temps, quand j'ai l'occasion, dit qu'il faut que l'opposition tienne fort ce dossier, ce volet-là, qu'elle tienne fort et qu'elle fasse tout pour clarifier la position de la CENI. Parce que l'œil et les informations et tout ce qu'ils détiennent pour donner cette affirmation leur permet également d'amener la CENI à constater et à vivre le fait dans la réalité. Et pour qu'une fois, ça je le dis, qu'on essaye de dire au Togo, bon voilà, les gens ont apporté des preuves aux allégations qu'ils donnent tout le temps par rapport aux fraudes. Parce que le combat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraudes. Le combat, c'est de faire en sorte que, de bout en bout, dans tout le processus des élections qui s'annoncent, qu'on puisse sentir qu'il y a une fiabilité, qu'il y a une bonne foi de la part de ceux qui sont là, de la CENI et jusqu'à cette opposition. Donc, vivement, que l'opposition se donne quand même cette manette de faire en sorte qu'on puisse, au niveau de la CENI, dire « Ouais, voilà, ils ont déclaré des choses, voilà les preuves. » Et c'est facile à faire. D'ailleurs, quand vous écoutez la plupart des leaders de l'opposition qui font des sorties sur cette question, on ne doute pas qu'il n'y ait pas des preuves probantes. Et donc, qu'ils aillent et que nous, en tant que journalistes, en tant que leaders d'opinion, on verra l'attitude que la CENI adoptera lorsqu'on lui aurait déjà apporté des preuves qu'elle ne peut pas dénier.
Merci, ami, juste rappeler que c'est essentiellement l'ANC et la DMP qui ont porté de telles accusations d'enrôlement des étrangers et des mineurs dans les zones 2 et 3. Et quand nous parlions également de la zone 1, il faut rappeler que 1 comprend le Grand Lomé et la région maritime. Et selon les chiffres du dernier recensement général de la population de l'habitat en 2022, la zone 1 englobe plus de 44% de la population togolaise. Donc conséquemment, c'est le plus grand électorat par zone. C'est dire qu'on ne peut pas ne pas accorder de l'importance à cette zone. D'autant plus, docteur Eklou, que quand nous parlons du climat social apaisé avant les élections, cela passe également par un fichier électoral le plus sûr, le plus transparent possible, qui ne se prête pas à la contestation. Et au-delà de ça, maintenant, vous, docteur en sciences politiques, quel est votre regard sur cette période que nous vivons tous et dont les confrères viennent de nous rappeler quelques détails?
Ok, je vous remercie. Effectivement, d'abord, il y a une question que moi je voulais poser avant de répondre. La CENI, c'est ça, c'est la CENI qui est à la tête de l'organisation des élections. Mm-hmm. Maintenant, pour que les élections marchent très bien, que tout le monde sache que nous avons été aux élections, on ne nous a pas volé, mais on n'a pas gagné. On ne nous a pas volé, nous avons gagné. Normalement, chaque parti politique doit avoir un de ses membres à la CENI.
Pas tous les partis politiques, mais au terme du code électoral, la CENI est composée de 17 membres, à savoir 5 qui viennent de la majorité présidentielle,
voilà.
De la majorité parlementaire, pardon.
Voilà.
5 également qui viennent de la minorité parlementaire et d'autres partis qui viennent de l'opposition extra-parlementaire, de la société civile et également de l'administration publique.
Voilà, la question de savoir, est-ce que c'est respecté de cette manière?
Oui, selon la composition de l'Assemblée la CENI actuelle, oui. Respecte la composition telle que le code électoral en a disposé.
D'accord, si c'est comme ça, d'abord, il va falloir que ceux qui sont là-bas à la CENI comprennent qu'ils ont des devoirs pour vérifier en bon et due forme ce qui se passe là-bas sur le terrain. Ce que vous êtes en train de dire, par exemple, c'est votre devoir, mais aussi c'est le devoir de tous les représentants des membres de leur parti politique à la CENI. Par exemple, si on dit à Lomé, on n'a pas bien, ou bien le recensement n'a pas été bien fait, ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'on n'a qu'à amener des preuves. Nous sommes témoins nous-mêmes. Moi, je me suis promené, j'ai vu des centres de recensement où les gens étaient très nombreux et les gens n'ont pas été recensés. Ils n'ont pas leur carte électorale, ils sont fâchés, ils sont retournés à la maison. Et les gens ont regretté. Les gens, ils sont dans la confusion parce que les gens se rappelaient. Par exemple, on a fait le truc là de novice avec les cases électorale, les grèves d'électeurs. Maintenant, les gens croyaient qu'il y aura des choses comme ça aussi qui vont venir encore. Voilà qu'ils ne sont
mais
pas...
Mais à ce niveau-là, nous faisons le distinguo.
Voilà.
Et nous clarifions que, en principe, la carte d'électeur ne devrait servir qu'en période électorale et que l'État devait prendre les dispositions pour que les citoyens puissent disposer de leur carte d'identité, pour qu'on ne fasse pas amalgame et confusion d'une carte à une autre.
Normalement, la population ne peut pas penser comme ça. Il doit penser d'abord que nous sommes les citoyens togolais et notre devoir, c'est d'avoir une carte d'électeur et aller remplir notre devoir. Donc, si aujourd'hui, il y a certains qui pensent comme ça, il y a certains qui pensent à ce que j'avais déjà dit. Mais si aujourd'hui les gens regrettent, les gens se disent, nous n'avons pas la carte d'électeur, la CENI, on organise les élections, pourquoi ? Pour que les gens viennent voter pour leur candidat de leur choix. Maintenant, si les gens ne sont pas satisfaits de ça, il va falloir qu'on donne le temps aux gens de toucher leur carte d'électeur. S'ils n'ont pas la carte d'électeur, comment ils vont voter pour leur candidat ? Donc nous allons demander à la CENI d'écouter ceux-là qui sont sortis et qui demandent qu'ils reviennent pour donner la chance à ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur. Moi, je pense que c'est fondamental de le faire comme ça.
Merci. Nous estimons que cela concourait à apaiser tout le monde, à rassurer tout le monde dans le sens du fichier électoral qui sera publié. Si tout le monde se retrouve dans le fichier électoral, c'est une bonne partie de difficultés que nous aurons évitées. Voilà. L'autre nouvelle donne cette année, c'est la sortie d'abord de l'ANC, rejointe la semaine dernière par la DMP. Voilà des partis et groupes de partis qui prennent le courage de solliciter leurs militants, leurs sympathisants, voire de bonne volonté pour recueillir de l'argent dans le sens des élections à venir. Harry Miaou, c'est une grande première des partis fassent ouvertement cet appel de fonds.
Non, ils ont toujours fait ça. Vous-même, si vous avez l'oreille, vous avez l'œil, vous comprenez que c'est pas la première fois que l'opposition sollicite ses sympathisants et militants à participer à la vie de leur parti. Ce n'est pas la première fois. Et allez-y voir avec la diaspora. On vous dira combien la diaspora met dans ces partis de l'opposition. Ce n'est pas une première. C'est que peut-être les choses sont en train d'être autres, qu'il faille qu'on fasse un appel ouvert. C'est pour cela qu'ils le font. Et revenons sur la question de l'engouement que nous connaissons. Moi, j'entendais croire que vous devriez évoquer la question de la leçon que l'opposition tire d'après les législatives de 2018. Parce que voilà cette opposition où, quand on demande d'aller recenser les gens qui balaient le pays en disant aux gens, n'allez pas vous faire recenser. Et aujourd'hui, c'est la même opposition que nous trouvons sur le terrain en train de sensibiliser. Ça veut dire que quelque part, l'Assemblée qui est là, le travail qu'il abat, est en train de donner des leçons. Parce qu'il y a une époque récente où les gens ont dit, n'allez pas chercher vos cartes.
Oui, Arima, tu as compris que l'opposition a compris les leçons de ses égarements par le passé.
Oui, justement. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est ce qui fait que l'engouement dont nous parlons jusqu'aujourd'hui a été constaté sur le terrain. Parce que pour la même cause, quand il y a des Togolais qui disent, allez faire vous faire recenser. Et d'autres qui disent n'allez pas. Ça crée un flou dans la tête des citoyens. Et aujourd'hui, c'est en toute cohésion que les uns et les autres appellent les Togolais, les communautés, à aller se faire enrôler. Et moi, je reviens pour dire que j'ai foi que si c'est vraiment prouvé et constaté au niveau de la CENI, qu'il reste ce reliquat de citoyens dans la zone 1. Moi, j'ai dit, je connais des gens qui sont dans la zone 1 qui n'ont pas pu se faire enrôler.
Vraiment.
Et si le constat est général, la CENI ne pourra que trouver la formule pour permettre à ces citoyens d'avoir la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de l'accomplissement de leur devoir.
Merci. Nous attendons sûrement que la CENI va communiquer sur le chronogramme des activités à venir. Oui, Didier ?
Après, bon, oui, l'opposition s'était égarée en 2018, d'accord, on connaît. Mais je pense fondamentalement que s'ils ont des regrets à nourrir à partir de cette malheureuse expérience de 2018, c'est justement la composition de la CENI dont tu as fait cas tout à l'heure, le docteur, mm-hmm. parce que la CENI est juste une émanation de la composition de l'Assemblée nationale. Et ça reste un coup sérieux.
Non, pas seulement de la composition, disons, de la
oui, la majorité.
De la configuration sociopolitique nationale.
Oui, je dis, mais pour une CENI, voilà.
Bien organisée.
Des CENI qu'on avait connues de par le passé, voilà. Mm-hmm. C'est lorsque des partis d'opposition, comme l'ANC, l'UFC, le CAR, d'autres, étaient à l'Assemblée, qu'on connaît, un certain dynamisme au niveau de la CENI et tout ça. Mais maintenant, comme les gens le disent, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, c'est justement pour les politiques. Après, pour le fichier électoral, il y a cette nouvelle également, ou ce constat également qu'il faut faire. Ce n'est pas une révision électorale qui est en train d'être faite, mais c'est un recensement intégral. C'est-à-dire que l'ancien fichier électoral qui avait servi, et dans le cadre duquel les gens avaient appelé à ne pas aller, à boycotter, n'existe plus. Donc tout ça, c'est du passé maintenant. Le fichier qui a servi à faire novice n'existe plus. On est en train de faire un autre fichier électoral, un nouveau fichier électoral. Et là, c'est naturel qu'on puisse connaître cet engouement-là, parce que c'est un recensement intégral. Après, les organisations ou entités politiques de l'opposition qui appellent à l'aide de la population ou de leurs militants pour mieux organiser leur participation aux prochaines élections, je pense que c'est de guerre, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre, c'est normal. D'abord, parce qu'un parti politique, comme toute association, vit d'abord par la cotisation de ses membres. Et ce qu'on connaît ici dans nos pays, ces organisations-là, les membres ont de la peine à cotiser. Et donc, quoi de plus normal que si les leaders sont en difficulté, notamment sur le plan financier, puissent lancer un appel aux membres de façon ouverte, de façon directe. Et oui, il y a également des sympathisants qui n'ont pas de cadre de membres, mais qui ont peut-être un peu de moyens et qui peuvent contribuer. Et ça ne peut qu'être une façon honnête et... Honnête, on avait parlé de l'honnêteté tout à l'heure, une façon honnête pour les partis politiques d'opposition de mobiliser des moyens pour leur activité. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement dans une période où, s'ils n'ont pas des moyens donnés par les citoyens, ils peuvent avoir d'autres réseaux qui leur donnent les moyens. Et on peut également être, vous connaissez le contexte, je ne vais pas aller directement, mais... Vous pouvez imaginer le contexte dont je parle. Donc, si les citoyens ne contribuent pas directement et que d'autres entités apportent des moyens aux partis politiques d'opposition, on peut perdre véritablement le jeu même politique dans son sens, dans ce sens que des gens iront faire d'autres choses ou auront d'autres positions qui vont échapper. Après, il ne faut pas comparer non plus les partis politiques d'opposition aux partis au pouvoir en termes de moyens financiers. Le nombre de cadres bien nantis, bien assis, que le parti au pouvoir a, un peu partout dans l'administration et sur les à divers niveaux de l'État, demandez ou cherchez ou citez-nous combien de partis politiques d'opposition ont quelques cadres aujourd'hui dans l'administration qui peuvent avoir des moyens de contribuer, comme de l'autre côté par exemple. Donc, s'ils n'ont aucun moyen, ils n'ont pas de cadres qui sont riches et qui demandent directement à la population, moi je salue ce courage-là, parce que après on va commencer par parler des histoires de 30 millions que quelqu'un a donné pour organiser des manifestations politiques et ça va devenir tout le débat. C'est honnête qui demande à la population qui donne.
C'est quelque chose de normal, il n'y a aucune honte de la part d'un parti de lancer cet appel de fonds. L'actualité, aux États-Unis d'Amérique, un peu partout en France, en période électorale, des candidats aussi riches que Donald Trump aussi demandent de l'argent à ce que les gens les soutiennent. Donc, on verra ce que ça va donner, docteur.
Oui, ils doivent demander. Mm-hmm. Ils n'ont pas exagéré de demander pour que la population soutienne. Parce que vous voulez que les gens vous représentent à l'Assemblée. Ils n'ont pas les moyens. Et ils sont venus chez vous, franchement, il va falloir que vous souteniez. Ils doivent demander. Maintenant, il va falloir que ceux-là qui demandent la population de les soutenir soient aussi honnêtes, comme nous le disons. Mm-hmm. Il faut qu'ils soient honnêtes. Ce qu'ils ont pris l'argent pour faire, il faut qu'ils fassent vraiment la chose et que ça démontre, que ça encourage la population que voilà, nous avons contribué tel montant ou bien telle chose et ça a donné. L'opposition a failli. le fait qu'il a refusé de participer aux élections législatives de 2018, c'est grave. C'est très grave.
Eux-mêmes, ils ont eu le temps
d'analyser, de conclure. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous voulons le changement, le développement. Nous voulons aller de l'avant. Et maintenant, toutes les décisions sont prises où? C'est à l'Assemblée. Quand le président et le Premier ministre, selon la science politique, si le président et le Premier ministre, ils font le conseil des ministres, ils font sortir des projets de loi. C'est à l'Assemblée qu'on vote ça. S'ils n'acceptent pas, on rejette ça. S'ils acceptent, voilà, ça devient maintenant une loi. Et on donne des articles. Maintenant, vous ne voulez pas participer, mais vous voulez le changement et le développement. Les gens qui veulent la démocratie et un changement ne peuvent jamais refuser d'aller aux élections. Quel qu'en soit ce qui se passe. Donc maintenant, s'ils demandent, il faut que la population aussi comprenne que nous voulons le changement et nous avons des gens, ceux que nous croyons, qui vont aller. Il va falloir, d'une manière à autre, il faut qu'on les soutienne et qu'ils fassent aussi ce qu'ils ont à faire pour que vraiment les choses soient bonnes et que le développement que nous cherchons soit visible.
Si les partis font un appel de fonds, cela appelle de la transparence, la publication du montant qu'ils auront récolté, comment ça a été utilisé. Les partis savent également que quelque part, ils doivent présenter leurs comptes financiers à la Cour des comptes après les élections. Et pour ce qui est de boycotter ou de ne pas boycotter une élection, je voudrais seulement rappeler que depuis la conférence nationale souveraine de juillet-août 91, les Togolais ont dit que le pouvoir politique doit être exclusivement dévolu par élection.
Voilà.
C'est uniquement par élection qu'on peut accéder au pouvoir, que ce soit à la mairie, à la région bientôt, à l'Assemblée nationale ou à la présidence de la République. C'est uniquement par élection. Quiconque serait tenté de s'accaparer d'un pan du pouvoir sans élection, cela s'appelle crime imprescriptible contre la nation. C'est un aspect de la conférence nationale souveraine de 91 qu'il est important de rappeler. Il est 11h39 et sans transition, nous allons à la coopération internationale avec Harry Miaou. Comme ton journal le rappelle, la semaine dernière a été chargée à Genève, siège de l'Organisation internationale du travail, qui a d'abord tenu sa 111e session à partir du 5 juin. Et puis, dans la foulée, le 14 juin a été l'occasion du sommet sur le monde du travail organisé par l'OIT, qui a vu la présence de chefs de gouvernement et d'autres responsables de par le monde entier. Victoire Tomenga Dogbe a représenté le Togo en sa qualité de Premier ministre. Et Nouvelle Opinion revient sur son agenda qui a été vraiment chargé à Genève. Arimiaou?
Oui, absolument, parce que le Togo est aussi membre de l'OIT et par rapport à cela, le Togo devrait tout le temps aussi participer aux sessions, et c'est ce qui a été fait récemment. Et le Togo a été représenté par Madame le Premier ministre, qui a valablement effectivement représenté le Togo en donnant les positions du Togo et en disant l'engagement total du Togo à accompagner tout ce qui se fait dans la justice du travail et ce que nous faisons au Togo. Donc, elle a lu un discours très alléchant, acclamé. Et au-delà, Madame le Premier ministre a profité pour rencontrer d'autres autorités et d'autres responsables qui sont concernés par ce chapitre, et notamment notre ancien Premier ministre, Humbo, avec qui elle a beaucoup échangé et qui ont scellé beaucoup de choses qui vont rapporter davantage pour l'amélioration des conditions des travailleurs au Togo et pour la bonne marche et le développement de notre pays.
Je rappelle juste que ce sommet a été animé autour du thème « La justice sociale pour tous ». Et Togo Presse, paru aujourd'hui, évoque également ces nombreux entretiens que la Première ministre Tomenga Dogbe a eu avec des personnalités à Genève. Et Togo Matin nous en donne également une idée, à savoir la PM du Togo qui a rencontré son homologue de Tunisie, Madame Naïla Bouden, Elle a également conféré avec Ali bin Samik Al-Mari, qui est ministre du Travail de l'État du Qatar. Elle a également rencontré Madame Rebecca Greenspan, qui est la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSET. Elle a également conféré avec Pamela Cook Hamilton, qui dirige le Centre du commerce international. Et Togo Matin relève également que, selon Gilbert Fosu-Humbo, le Togo a fondé son approche sur les valeurs de l'OIT. Alors, docteur Clou, oui. L'OIT dans son ensemble, cette session qui s'est tenue la semaine dernière, ponctuée par ce sommet auquel la Premier ministre a rencontré pour délivrer son message au nom du Togo et ses personnalités qu'elle a eu à rencontrer à Genève.
Le Premier ministre, du moins, c'est la chef du gouvernement.
Enfin, moi, je préfère la conjuguer au féminin, hein, purement et simplement.
Voilà,
je suis la première ministre.
Moi, je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça, vraiment. Mais, vous savez, la dame a raconté dans son discours le système et la politique du Togo par rapport à ça. Mais moi, je demande une question. Est-ce que tout ce qu'il a dit, c'est par rapport à la justice sociale, dans quel domaine, monsieur le journaliste?
Non, plutôt c'est moi qui pose des questions pour que vous nous apportiez des éclairages.
Voilà, je sais. La justice sociale, dans quel domaine? Dans tous les domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine de gagner. Par exemple, si j'ai lu dans le truc là, des appels d'offres, des trucs autres là. Maintenant, est-ce que la justice dont on parle ici, est-ce que cette justice sera faite à tout le monde? À tout le monde, comme cela se doit. Maintenant, si notre Premier ministre a donné ce discours qui a vraiment motivé tout le monde, moi je souhaiterais que les choses soient telles que on l'avait dit là-bas. Mm-hmm. Que les choses soient respectées et que la justice là soit faite à tout le monde, que ce soit le pauvre, que ce soit le riche, que ce soit les gens qui ont des relations, que ce soit les gens qui n'ont rien. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation qu'on ne peut pas retrouver dans la société, que la justice la soit faite à tout le monde équitablement.
Merci. Je rappelle juste que, comme l'écrit Togo Matin, que Gilbert Fosu-Humbo, qui est le directeur de l'OIT, est en principe l'arbitre au plan mondial sur la justice sociale, a déclaré à la tribune à Genève que le Togo a fondé son approche sur les valeurs de l'OIT. Et Didier Assogba, tu as certainement écouté ou lu les propos tenus par Mme Tomega Dobé à Genève. Elle est revenue sur la feuille de route gouvernementale et ce que le Togo et son gouvernement essaient de faire pour corriger, pour rapprocher les bords dans l'un ou dans l'autre sens.
Oui, oui, on a suivi avec intérêt l'intervention de Mme la Première ministre. Donc, si on dit la Première ministre, il n'y a pas besoin de dire Madame alors. Donc, la Première ministre, Victoire Tomega Dogbe, oui, et qui a justement énuméré les actions que le Togo est en train de mener pour garantir une justice sociale. Je crois qu'elle avait même déclaré que le Togo a les moyens. Donc, justement, les solutions, elle a dit, les solutions sont à la portée du Togo pour faire face donc aux instabilités, faisant cas donc du respect des voies et moyens pour respecter donc ou garantir, mettre les choses en place pour avoir cette justice sociale-là. Et on sait que, oui, le gouvernement est conscient de la situation. Aujourd'hui, la justice sociale, ça reste une quête permanente. On ne peut pas notamment dire qu'à ce stade-là, on est arrivé à la justice sociale, parce que les injustices sont constatées un peu partout. Aujourd'hui même, on peut le dire, on a parlé tout à l'heure des gens qui n'ont pas eu de carte électorale, ça peut être considéré comme une injustice. Des gens qui ont besoin que l'État leur apporte, par exemple, les services publics de l'État viennent vers eux, l'électricité, l'eau, qui sont un peu partout dans la périphérie, qui attendent que l'État vienne vers eux et qui n'ont toujours pas ça, peuvent avoir un sentiment d'injustice de ce que ils ont besoin d'un service de la part de l'État et n'ont pas. Donc je pense que c'est une quête permanente, cette justice sociale-là, et la Première ministre a bien fait déclarer que nous avons les solutions pour faire face à ces instabilités liées à l'injustice sociale. Et donc, à partir de ce moment-là, le discours est donné. Il faut maintenant qu'on mobilise les actions pour parvenir à cette justice-là ou pour être à la quête permanente de cette justice-là en faisant en sorte que l'État puisse être là lorsque les citoyens ont besoin de son assistance. Par exemple, il y a une action en cours actuellement, c'est la couverture maladie universelle pour tous, par exemple, de ce qu'un citoyen qui arrive à l'hôpital, qu'on ne le laisse pas à son triste sort parce que, oui, à l'urgence, il n'y a personne de sa famille qui est venu, qui a payé d'abord pour qu'on prenne soin de lui et que peut-être le pire arrive. Donc, je pense que avec cette couverture sociale pour tous, couverture maladie pour tous, et la promptitude de l'État à assister le citoyen dans d'autres domaines de la vie publique, je pense que ça pourrait permettre justement ou contribuer à ces solutions-là dont parle la Première ministre pour faire face aux instabilités qui peuvent découler de l'injustice sociale que les uns et les autres pourraient constater ici et là dans le pays.
En tout cas, il était revenu sur tous les aspects, l'éducation pour tous, les centres de santé pour tous, le désenclavement des zones de production agricole, l'électricité, l'eau, la télécommunication, le digital et bien d'autres. C'est le texte de sa présentation continue à circuler sur les réseaux ou sur les lieux indiqués. Et justement, Harry Miaou, Nouvelle Opinion nous parle d'un aspect de cette justice sociale, à savoir l'énergie pour tous, avec ce projet du nom de Kamadama qui ambitionne de construire une ligne de 161 kV qui doit relier les villes de Kara, Mango, Dapan, Mandouri jusqu'à la frontière Togo-Bénin. Et la mission essentielle, c'est de renforcer l'approvisionnement énergétique dans les régions du nord du Togo qui souffrent actuellement de problèmes d'alimentation électrique. La ministre Assemblé a visité le chantier la semaine dernière. Les estimations évaluent l'exécution, la réalisation à 90%. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose si la lumière à temps réel arrive auprès des compatriotes du nord du Togo.
Le Togo, à mon avis, a compris beaucoup de choses ces derniers temps. On ne peut pas aller au développement dans les ténèbres. Et le développement se fait avec la lumière. Et je crois que l'économie connaît également un sort quand il y a l'énergie. Vous savez, le nord, une bonne partie du nord du Togo est desservie par le Ghana. Ce qui fait que lorsque ça ne va pas au Ghana, il n'y a rien à faire. Beaucoup avaient décrié qu'au niveau de Dapaon, il y avait des coupures intempestives et que pratiquement, il y a des moments où les gens n'ont pas la lumière là-bas. Alors qu'avec ce que nous vivons dans cette zone-là, il est très ou plus qu'urgent qu'on essaye d'alimenter en énergie électrique ces milieux-là pour avoir la lumière et pouvoir faire ce qu'il faut en temps réel quand tout ce que vous connaissez va arriver. Donc le Togo l'a compris et c'est par rapport à ça qu'il y a ce projet, parce que c'est plusieurs villages, plusieurs cantons, plusieurs milieux qui sont dans les ténèbres très souvent, et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Il faut encourager ce projet et dire qu'il faut que les choses aillent plus vite pour que les gens soient éclairés et qu'ils puissent. Parce que quand il y a la lumière, nous avons appris avec les lampignons et les lampes. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats qu'on a aujourd'hui. Quand les enfants ont la lumière, ils regardent la télé, ils ont tout. Et donc ça veut dire qu'il y a un éveil global qui se fait sentir et qui va droit et positivement dans la réussite des enfants, dans tout ce qui l'accompagne. Et bref, il faut vivement y aller. Et moi, j'encourage ce projet et je félicite le gouvernement par rapport à cette vision qui est noble. Et il y a beaucoup d'autres domaines où l'État est en train de comprendre qu'il faut aller vite. Et il faut les encourager quand c'est bon, mais quand c'est mauvais également. Il faut que nous...
Naturellement, vivement que ce projet Kamadama apporte la lumière dans tout le Nord, notamment à Bangeli, Vous rappelez que la semaine dernière, un auditeur avait appelé de Bangili pour se plaindre qu'ils n'ont pas l'électricité. Vivement que Kamadama va apporter cette lumière à Bangili un peu partout dans le nord du Togo. Et puis il faut rappeler que le gouvernement nourrit l'ambition de porter le taux d'électrification à 100% d'ici 2030. Et nous en sommes à 7 ans.
Oui, à 7 ans. Et je pense que c'est une ambition noble. Mais il va falloir, si on veut véritablement l'atteindre, s'armer encore plus et s'organiser mieux et réorganiser notre bras armé qui reste aujourd'hui la CET. Vous êtes sans savoir, on a toujours l'habitude de le dire, la CET reste aujourd'hui le seul commerçant que les clients partent prier pour venir leur vendre la marchandise et il ne vient jamais. La CET ne vient jamais, même autour de Lomé ici. Vous voyez, quand autour de Lomé ici, vous avez parlé, vous avez fait tout à l'heure allusion à cette histoire de toile d'araignée. C'est vilain. Après, nous sommes dans la période pluvieuse et on voit comment ça multiplie des dégâts avec l'amalgame entre les eaux de ruissellement, les eaux qui, les flaques d'eau et les fils de toiles d'araignée qui tombent dans les eaux un peu partout dans la périphérie. On voit un peu que ça ne marche pas. Et avec justement cette période, la plupart des installations qui a permis de tirer l'électricité vers plusieurs zones, quand les fils électriques, ces fils-là d'électrique de fortune se blessent, il n'y a plus d'électricité dans la plupart des zones. Alors que la CET devrait, à mon sens, et ça c'est dans l'ordre normal des choses, pour contribuer justement à l'atteinte de cette ambition à l'horizon 2030, étendre son réseau un peu partout là où les citoyens se trouvent et ils ont besoin. C'est assez ahurissant de le constater, mais le courant électrique ne se consomme pas naturellement depuis quelque temps à crédit. Il y a les compteurs. Même si vous consommez à crédit, vous allez finir par payer.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas la CET à lui donner les moyens qu'il faut, peut-être qu'elle n'a pas les moyens, mais à lui donner les moyens qu'il faut pour étendre véritablement le réseau un peu partout dans la périphérie et dans les autres villes, dans les villages du Togo, en conjuguant le réseau de la CET et avec les énergies renouvelables et tout
les autres. Les 10, nos villes et campagnes, et qui sont aussi et surtout une source d'insécurité. Un fil de courant qui traîne par terre en cette période de pluie, quelqu'un qui manierait maladroitement un fil, un court-circuit comme ça, et ce serait des catastrophes. Vivement que la CET étende l'énergie électrique un peu partout au Togo avec le projet Kamadama, mais également autour des agglomérations, corriger enfin ce phénomène de toile d'araignée. Ce n'est pas beau du tout. On va terminer avec cette mission qu'a effectuée le ministre du Commerce, Kodjo Adeje, au Canada la semaine dernière. C'est le confrère Togo Matin qui nous en parle. Vers le renforcement du partenariat économique entre le Togo et le Canada. Le Canada et le Togo qui viennent de réaffirmer leur volonté commune de renforcer leur partenariat économique à la faveur de cette rencontre que Kodjo Adeje vient d'avoir à Ottawa avec son homologue canadienne du nom de Mary Eng. Et puis, pour l'OMD, et c'est Nouvelle Opinion qui nous le rappelle, et nous le savons déjà presque tous, que Philippe Kokou-Tchodien, commissaire général de l'OTR, est candidat au poste de secrétariat général de l'OMD, entendez par là, l'Organisation mondiale des douanes, cette institution ou cet organisme intergouvernemental indépendant créé depuis 1954 et qui regroupe 185 administrations douanières à travers le monde. Tchodier, qui est le seul candidat africain sur la short list, il va devoir en découdre avec l'Américain Ian Saunders et l'Irakien Amer Souaid. Harim Yaou, c'est le 24 juin prochain, ce sera jeudi, que le sort de tous ces candidats-là sera scellé.
Bonne chance à Dr. Philippe Tchodier, bonne chance au Togo, bonne chance à l'Afrique, parce que quand moi j'ai vu la candidature de du commissaire général de l'OTR. Et quand on a compris tous les contours, que ce fut le, c'est lui le tout premier africain à oser à postuler à ce poste, je me suis dit que d'abord, il fait un nom au Togo. Vous savez, à partir de sa candidature, une bonne partie du monde entier saura qu'il existe un pays qui s'appelle le Togo. Et vous voyez les gens, les géants d'Amérique qu'il est en train d'affronter, et ceux qu'il est en train d'affronter, je crois, que c'est de bonne guerre que le Togo s'implique ou s'engage pieds et mains dans la bataille. Et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire. Et il prend sur lui la responsabilité de traiter directement avec ses pairs, ministres des Affaires étrangères d'autres pays d'Afrique, et pourquoi pas avec le reste du monde s'il en a la possibilité, parce que la victoire de Tchadier ne serait pas une victoire à lui, tout simplement, mais ce serait une victoire du Togo et par ricochet une victoire de toute l'Afrique. Bonne chance, et que vraiment les dieux du Togo l'accompagnent et qu'ils nous ramènent cette victoire.
Merci Tchadier qui est déjà... qui préside déjà le conseil du forum sur l'administration fiscale africaine, et s'il a les chances d'être élu, il va s'ajouter à Gilbert Fassou-Hongbo. C'est dire que Docteur Eklou, le Togo est très faiblement représenté dans les instances, dans les institutions internationales. Chez nous ici, les Sénégalais, ils sont partout, les Maliens, les Nigériens. Mais écouter le nom d'un Togolais ou d'une Togolaise dans ces instances-là, c'est vraiment rare.
Oui, c'est vraiment rare. Et je pense que ce que le docteur a fait, c'est un grand pas. Parce que si vous voyez, je constate quelque chose. Les Togolais qui fréquentent à l'étranger, on fait toujours honneur au Togo. Mm-hmm. Vous allez voir.
Brillants étudiants.
Vraiment. On les apprécie, on les qualifie, ils travaillent très bien. Nous avons de l'expérience chez nous et on a toujours félicité. J'ai vu même des camarades dans d'autres filières qui ont travaillé bien, qui sont appréciés même dans notre université. Maintenant, ce que le docteur a fait maintenant, je crois que c'est très bien pour qu'on sache que le Togo a des diplômés qui sont rigoureux, honnêtes et qui travaillent. Parce que vous allez voir, les Togolais qui sont partis pour représenter le Togo ailleurs, vous allez voir que on les apprécie aussi. Mm-hmm. Quand ils travaillent, on les apprécie. On dit souvent au Togo, ah, vraiment les Togolais ont bien travaillé. Les Togolais, ils sont honnêtes. Les Togolais sont intègres. Ils ne sont pas manipulés par des gens. Ils sont aussi éduqués. Donc, je crois que ce qu'il a fait là, c'est une bonne chose. Nous devons le soutenir. Et nous devons lui souhaiter de bonnes chances, comme le journaliste vient de le dire, pour qu'il arrive à remporter cette victoire-là et pour que nous soyons aussi reconnus sur le plan mondial.
Merci vivement que nous tous, à commencer par le président de la République, que nous soyons la promotion du label Togo à l'international. Mais pas seulement que nous fassions fuir nos cervelles, également qu'ils reviennent travailler pour le Togo. Parce que Didier, docteur Daniel a dit, les Togolais étudiants sont bien appréciés à l'extérieur, mais le débat se pose de ces Togolais qui vont étudier à l'extérieur. Combien reviennent travailler pour le pays?
Oui, d'abord, moi je commence ainsi. Si le Togolais est apprécié à l'extérieur, ça veut dire que le Togolais est déjà bon à l'intérieur. Très bon ici. Nous avons de la compétence ici à National. Nous avons un docteur en Sciences Po devant nous ici. Est-ce que l'État l'utilise? Je ne crois pas. Nous avons
en des... tout cas, le club de la presse, lui,
nous bah voilà, l'utilise. C'est le club de la presse l'a sorti. Nous avons d'autres compétences. Vous-même, d'autres personnes, nous avons des compétences en interne ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Le débat commence par là. Si nous sachions utiliser nos compétences en interne, ben, le sort que nous réservons aux gens ici en interne va attirer ceux qui partent étudier à l'étranger de revenir servir leur pays. Mais si le sort que nous réservons à ceux qui servent en interne n'est pas enviable, n'est pas souhaitable. Ceux qui partent la cherchent rapidement, ils partent peut-être avec la bourse de l'État, mais ils préfèrent chercher d'autres moyens pour aller se mettre en valeur et mieux traiter et vivre. Donc, il faut que le Togo commence par reconnaître ses valeurs, les mettre justement en valeur. Et après, nous allons pouvoir les placer un peu partout comme nous voulons. Et Tchagnon a l'habitude de dire ici que le Sénégal, dont nous parlons souvent pour les organisations internationales, le Sénégal fabrique ses experts et l'impose au monde entier. Personne ne refuse. Mais qu'est-ce que nous on fait au Togo avec nos valeurs que nous avons, les experts que nous avons, des gens qui se battent, qui ont de la compétence, mais qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, c'est la grande question. Et tu as bien fait d'interpeller le président de la République directement, qu'il donne le tempo. Je crois que notre diplomatie est assez forte maintenant et assez proactive. Et on peut, à partir de ce moment-là, commencer par placer nos compétences un peu partout, parce que c'est l'heure même maintenant.
Merci. Les placer partout, mais les valoriser d'abord ici au pays. Alain Miaou, on termine par toi.
Oui, non. Il faut attirer l'attention du gouvernement ou du chef de l'État sur ces ministres ou ces responsables dans nos pays qui minimisent les valeurs en interne. Vous savez, quand vous suivez les séminaires de certains départements ministériels, vous voyez, on vous importe des gens, on dit qu'il est venu d'ici, qu'on dit qu'il vient d'ici, alors que ce que le monsieur vient faire, on l'a sur place.
Qui peut connaître le Togo plus que le Togo?
Donc, il faut que le gouvernement, si vraiment, tel est que tout le monde a le constat, qu'en interne, nous sommes bons sur tous les plans, qu'on cesse de nous amener des mercenaires intellectuels qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas notre pays.
Je donne ça juste
les réalités du pays.
Je donne un exemple d'un appel à recrutement dans un ministère de l'État. Et on dit que pour ce recrutement-là, le billet d'avion aller-retour est disponible et qu'on va prendre en charge le logement. Vous comprenez directement que ce poste-là, qu'on veut donner à quelqu'un dans un ministère,
pour un étranger. Si c'est un Togolais de la diaspora, on comprendrait.
Ça n'a même pas besoin. Souvent, c'est les Sénégalais qu'on nous amène.
Merci. Il est midi passé de quelques millions. Nous suspendons nos débats, le temps de souffler un peu, puis renouer bientôt avec les auditeurs qui vont composer les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Il est midi, passé de 8 minutes sur les deux numéros, le 22, 21, 30, 74, le 91, 36, 63, 75. Nous sommes curieux de recueillir vos commentaires, vos questions.
Allô.
Sur le sujet du débat aujourd'hui. Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Chef Gaouf.
Oui.
Anani Léopold Noukafou.
Anani Léopold Noukafou.
Oui, Noukafou, c'est le quartier.
Oui. Eh bien, nous vous écoutons.
Ma première intervention, c'est par rapport aux élections.
Oui.
Je dis, les élections doivent être en préparatoire, c'est-à-dire le recensement. D'abord, il faut ceux qui ont les cartes nationales d'identité.
Oui.
Et cette vague de recensement effectuée, on passe à la deuxième vague, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de carte, mais ont ce que nous appelons l'app généalogique qui permet d'avoir la nationalité du pays. Mm-hmm. Bien, voilà, c'est une proposition, il faut que l'État étudie ça. Mm-hmm. Et deuxième intervention, c'est par rapport aux détenus politiques, qui ne sont pas des détenus politiques, mais sont des accusés sous pression du pouvoir exécutif, exécuter le pouvoir judiciaire. Bien. Et il faut bien décanter. J'aimerais demander au docteur en sciences politiques, parce que nous, quand on était au public dans les années 90, il n'y avait pas le code civil pour le Togo. Il y a le code civil français qu'on utilise. J'aimerais savoir si le Togo actuellement a un code civil. Je n'ai pas la réponse jusqu'à présent. Et pour terminer, je demande à l'opposition de réfléchir pour mieux atterrir parce qu'ils ont raté l'esclavage, l'indépendance et actuellement la démocratie en Afrique. Donc je ne veux pas trop monopoliser la parole.
Merci, cher ami Anani Léopold depuis Nukafu. En attendant le prochain auditeur, il s'annonce déjà. Ok, docteur Clou, notre auditeur voulait savoir si le Togo dispose d'un code civil vraiment propre à nous.
Non, 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 non. Le Togo ne dispose pas.
Le Togo ne dispose pas encore d'un code civil made in Togo.
Non, non.
Ok. Merci, docteur Clou. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est monsieur Kofi.
Kofi, vous appelez de...
Je vous appelle de Huntigome.
Huntigome.
Oui.
Bien, nous écoutons.
Oui, moi j'ai juste quelques remarques à faire. Et à part vous-même, parce que quand vous ne présidez pas l'émission, bon, nous autres on n'écoute pas. Bon, on a remarqué que vous tenez que les mêmes têtes. Ça fait qu'il n'y a pas de diversité d'idées, quoi. Vous tenez que les mêmes têtes. Je vais parler du côté journaliste. Vous voyez, c'est vrai, c'est vous le modérateur. Quand vous n'êtes pas là, ça n'a pas trop de goût, ça c'est vrai. Mais des fois même vous invitez des journalistes, quand ils nous parlent, on n'écoute même pas, on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de nous dire. Soit d'autres, ils parlent comme s'ils sont en train de parler à leur copine au lit, alors qu'il y a un micro. On n'est pas obligé de parler comme un Français, d'essayer de forger un accent. Qui nous parle à haute voix, intelligible.
Mm-hmm.
Merci.
Je vous en prie, l'ami Kofi, c'est un franc parler qui me va tout droit au cœur et que je vais partager avec tous les confrères habitués et les habitués au club La Presse. Nous avons besoin de ce, des francs parler comme ça. Cher ami Kofi, le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, mon grand frère, bonjour le plateau.
Oui.
Oui, je me demande Benoît Dagouin.
Benoît Dagouin, oui.
Et moi, je voulais rebondir sur votre dernier sujet. Les Togolais sont appréciés à l'étranger. C'est normal. Vous avez vu, quand on juge les Togolais au Togo, on les condamne ici, mais si on amène l'affaire à l'étranger, c'est l'État qui est condamné. Donc, je pense que nous savons ce que nous devons faire. Si c'est nous les Togolais qui sont mauvais, bien nos dirigeants qui ne dirigent pas bien, ou bien qui n'aiment pas nous les Togolais, qui n'aiment pas ce que nous voyons en avant. Nous construisons notre pays ensemble. Merci et bonne journée.
Je vous en prie, je vous en prie. Hein. Nous sommes les défenseurs de la cause togolaise et nous plaidons pour que nous valorisions nous-mêmes nos propres ressources et puis d'en faire la promotion à l'international. Le drapeau togolais doit flotter fièrement un peu partout. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô.
Oui. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Bekemsi.
Monsieur.
Bekemsi depuis Sokodé.
Ah, Bekemsi depuis Sokodé.
Oui, oui, oui.
Bien, nous vous écoutons.
Je vous dis merci pour l'émission.
Je vous en prie.
Je veux parler par rapport à l'histoire de la CP, là.
Oui.
J'aimerais dire que la CC, franchement, on n'arrive pas à comprendre comment cela se passe. L'argent qui rentre au niveau de la CC, là, qu'est-ce que la CC fait avec? Les poteaux tombent. Vous allez vous plaindre d'abord avant qu'ils ne viennent pour soulever les poteaux.
Oui.
Mais quand ils passent pour venir aller faire les installations, là, ils voient ça ou pas? Mais il faudrait maintenant que le client retourne là-bas, aller dire que le poteau est tombé avant qu'on ne dise qu'on va venir le chercher.
Oui, oui, oui.
Quand on prend le second plan sur le second plan, l'étoile d'araignée là dont on parle là. Mais l'argent là qu'on donne là, l'argent là va où? On a appris dans ce bon pays là qu'il y a des gens qui ont consommé l'électricité jusqu'à des coûts de millions, jusqu'à 6 millions. Ils n'ont pas payé, mais ils vivent dans ce pays-là. On ne leur fait rien. Mais quelqu'un qui utilise domestique, qui va consommer peut-être 100 palais, c'est-à-dire 100 l'escache pas. Mais la personne, on lui prend de l'électricité juste après 3 mois d'un pays. Mais ceux-ci, ils ont consommé comment jusqu'à 6 millions, parce qu'on ne puisse maintenant aujourd'hui respecter cela sur nous. Ça, c'est comment? premier ministre va au niveau de Genève pour aller dire la justice sociale. Nous, nous ne voyons pas cette justice sociale là.
Mm-hmm.
Franchement, il faudrait que les choses se passent dans les normes. Nous ne sommes pas contre quelqu'un.
Mm-hmm.
Nous n'avons pas besoin que le gouvernement vienne nous distribuer de l'argent. On n'en a pas besoin. Et tous sommes des chefs d'entreprise. Mais que les choses se passent dans la règle de l'art. Je vous remercie.
Je vous en prie, l'ami Pekemsi, depuis ce côté, la CET, les poteaux qui tombent, les fils qui pendent un peu partout, les toiles d'araignée, c'est à vous que l'État togolais a donné la mission de nous fournir l'électricité. Faites votre travail comme il se doit, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes. Quand les Togolais... Comment se fait-il que les Togolais soient aussi intègres, aussi droits, et ne puissent pas être facilement manipulables à l'étranger, mais dans le pays, on remarque carrément le contraire. Comment est-ce possible? Soit parce que à l'étranger, ils savent que quand tu fais une petite gaffe, ça ne pardonne pas. Si dans le pays, il y a l'impunité, c'est facile que ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'extérieur, ils soient facilement aptes à le faire à l'intérieur.
Mm-hmm.
Merci.
Je vous en prie. En tout cas, c'est des interventions directes d'un certain niveau aujourd'hui. Je vous en remercie. Le suivant, bonjour.
Allô,
oui.
Et si? Vous avez parlé de l'opposition togolaise. Mais c'est là où le régime l'a placé, quoi. Sans travail ni affaire, on les a poliés de travailler pour le développement du Togo, donc ils sont là-bas, laissez-les là-bas, ils n'ont pas de compte à vous rendre, voilà, à rendre aux Togolais.
Non, et si, là, et si je ne suis pas d'accord avec vous, hein, nous devons des comptes mutuellement.
Non, parce qu'on ne leur donne rien, ils n'ont rien, et ils font des appels de fonds pour survivre et pour poursuivre la politique.
Mais c'est de l'argent public qu'ils mobilisent, ils ont l'obligation d'en rendre compte.
À qui?
Mais je vous dis,
est-ce que vous rendez compte?
S'il vous plaît, les partis eux-mêmes ont mis en place des structures dans le sens de la transparence de ce qu'ils vont mobiliser. Il en est ainsi de l'ANC, il en est également de la DMP.
L'ANC, qui est le parti le plus persécuté et qui est le plus légaliste. Et ils font cet appel de fond là depuis longtemps. Et puis voilà. Et vous avez parlé de ministre Adedie qui est parti au Canada.
Oui.
Je voudrais demander si ils ont laissé avec son confrère de la justice là, s'ils ont levé la plainte pour que nos frères rentrent au pays. Je ne sais pas s'ils ont levé la plainte. Ça ne sert à rien.
Je ne sais pas non plus. Nous avons juste parlé de cette mission qu'il vient d'effectuer au Canada et nous avons dit l'objet de cette mission et les pistes que le Togo peut explorer avec le Canada dans le sens du renforcement du partenariat de la coopération. Merci. Eh bien, Didier Arimiaou et Dr Clou, vous avez suivi les interventions des auditeurs. Ils n'y sont pas allés du dos de la cuillère et nous-mêmes ne nous sommes pas ménagés, Arimiaou. Nous-mêmes qui animons comme la presse.
Il y a un intervenant qui disait qu'on vient parler du français.
Que nous ne parlons pas à haute voix, qui n'arrive pas normalement.
Oui, bon, je ne sais pas.
Que certains essaient de chorobiter pour parler.
Je crois que nous, notre accent, il est togolais, il est accessible à tous. Je ne crois pas que...
Non, il ne parle pas de toi, Ari Niaou, mais bon, le plateau, c'est du lundi au vendredi.
Bon, ça dépend. Donc, comme vous l'avez dit, pour lui, on va s'améliorer. On va faire en sorte que les gens soient davantage satisfaits de tout ce que nous faisons comme prestation ici. Et pour Madame Essi, qui disait également de ne pas... de laisser l'opposition en paix, je me dis si... On va sur ce terrain, les gens risquent de ne pas leur donner ce qu'ils demandent. C'est-à-dire les gens donnent en se disant qu'ils auront un compte à la fin. Mais quand les gens donnent comme ça, pour dire qu'on n'aura pas à leur rendre compte, ils ne vont plus donner. Donc c'est du bien que je crois qu'on est en train de faire en disant que quand les gens vont leur donner, ils n'ont qu'à éditer les comptes. pour que tout le monde sache.
Oui, entre nous, hein, l'opposition qui accuse le pouvoir tout le temps d'impunité, d'opacité, cette opposition doit être la première à donner la leçon de la transparence.
Tout à fait.
Merci. Didier.
Ben, je crois qu'on ne va pas laisser l'opposition. On ne va pas laisser l'opposition parce que elle joue un rôle, l'opposition. Nous avons un docteur en sciences po ici. Nous avons fait Sciences Po, mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'à cette hauteur-là.
Pas encore.
Voilà. Mais on ne va pas laisser l'opposition, parce que si l'opposition n'est pas organisée, n'est pas forte, n'est pas en mesure de contrebalancer le pouvoir en place, le pays ne va pas se développer. Une opposition contribue naturellement à développer un pays, contribue, amène le gouvernement à mieux travailler si elle est organisée, si elle est influente. Donc, si on laisse l'opposition, ben, c'est nous tous qui allons en pâtir et ce n'est pas normal. Madame, nous n'avons pas laissé l'opposition. Nous avons déjà salué leur honnêteté d'avoir cherché directement à demander l'argent à la population. Mais maintenant, il faut justement que, après avoir collecté les fonds, qu'ils justifient la façon dont ils ont utilisé. La Cour des comptes est juste à côté et qu'ils envoient les documents clairs ou qu'ils vont directement vers la population pour rendre des comptes. Ça va être normal pour tout le monde. Nous avons également insisté sur la nécessité de valoriser le Togolais. Donc, je crois que cet appel-là devrait être entendu par les autorités parce que nous en avons certainement besoin. Il y a des compétences un peu partout sur le territoire. Il faut les utiliser. Et également, la CET a été interpellée depuis son collège. Donc, ça veut dire que c'est un sujet de préoccupation nationale, cette affaire d'accès à l'énergie électrique pour tous. Et donc, puisque le gouvernement ambitionne de couvrir tout le territoire, tous les hameaux, tous les coins du pays d'ici à 2030, si on n'a que 7 ans pour arriver à cette ambition-là, il va falloir, je le répète encore, qu'on réorganise la CET, qu'on réarme la CET, qu'on lui donne véritablement les moyens et que la CET lui-même s'attache des services des gens qui peuvent naturellement l'aider à rénover le réseau tel qu'il est actuellement et qui ne sert pas tout le monde.
Merci, docteur Pasteur Daniel Clou.
Oui, je ne sais pas ce que la dame veut dire.
Non, c'est son droit également de dire ce qu'elle pense. Maintenant, on peut être, ne pas être d'accord, mais c'est la liberté d'expression totale au
club. Oui, mais si si la dame là veut du bien pour l'opposition, elle ne doit pas faire cette intervention là. Parce que, par exemple, nous voulons, l'opposition dit que si lui, il est à la place du gouvernement aujourd'hui, il va faire mieux. Et il va falloir que l'opposition gagne la confiance de la population en donnant la transparence de tout ce qu'il va faire. Si l'opposition aujourd'hui fait l'appel de fonds pour le soutenir à gagner les élections à venir, et s'il ne rend pas compte à la population, voilà comment nous avons utilisé ce que vous nous avez donné, et voilà combien de députés nous avons aujourd'hui, combien de personnes nous avons ici aujourd'hui, comment la population sera encouragée de l'aider encore prochainement. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est plutôt les aider à comprendre que la population sera encouragée à le soutenir encore s'ils font ce que nous sommes en train de dire. Donc la dame, nous ne sommes pas en train de salir ou bien de faire du mal à l'opposition, mais plutôt nous contribuons à ce que l'opposition comprenne que ce qu'il doit faire pour que les choses marchent très bien et que les choses soient faciles dans le temps à venir. Il faut qu'il rende compte à la population, que les choses soient transparentes à la population. Et ils vont voir que les choses iront
plus loin. À partir du moment où on joue sur la place publique, on ne peut pas empêcher d'être vu et de rendre compte. Merci à vous, Didier Komi, Harry Miaou, et puis docteur, Daniel. C'est la première fois, mais il y aura sûrement d'autres fois, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Merci. Merci à la technique. Victor Gbe et Kodjo Gérode, merci surtout aux auditrices et auditeurs, mais je puis vous dire, chers amis auditrices et auditeurs, que vos interventions aujourd'hui nous sont allées tout droit au cœur. Vous nous avez reproché certains journalistes qui parlent comme à leur copine. Il y a même une auditrice qui m'a renvoyé un message dans ce sens. Certains qui essaient de parler comme des Français alors que nous sommes des Togolais, avec notre accent togolais. L'essentiel, c'est qu'on parle bon français, sans faire de faute, mais notre accent de Kotokoli, de Kabyé, d'Evé, de Moba, laissons transparaître ça, soyons sincères et honnêtes. Et puis, les adresses à l'endroit de la CENI, si nous voulons avoir des élections apaisées, cela passe par un fichier électoral le plus transparent possible. La CENI doit nous amener dans ce sens. Oui. La première ministre, l'ami de Sokoré a dit qu'il ne se retrouve pas dans ce que la première ministre a dit à Genève. Maintenant, Mme Tonga Doumbé doit arriver à convaincre notre ami Pekemsi de Sokoré. Et puis la CET, vous avez le monopole dans la production, dans la distribution. Donnez-nous le courant, d'autant plus que nous voulons acheter. Et quand vos propres installations tombent et que nous vous appelons, la moindre des choses, c'est d'aller relever le poteau, relever les fils pour nous mettre à l'abri d'accidents, comme vous le savez. Et puis les autres sujets, je ne peux que vous remercier, vous souhaiter bon appétit, digérez d'abord le club de la presse et ensuite digérez ce que vous vous apprêtez à manger. Rendez-vous demain mardi à 11h et prions que Dieu le veuille.